Tov, Parashat Toldot. Tov, je pense en préambule, on se doit de lier la fin de la Parashat Chayesara avec le début de la Parashat Yitzhak. On va essayer de donner, de rappeler un enseignement que peut-être que vous connaissez déjà, mais qui prendra peut-être une dimension un peu plus compréhensive de cet enseignement qui est dit par le Baal HaTorim. Le Baal HaTorim nous fait remarquer que le dernier passouk de la Parashat Chayesara, qui parlait de Ishmael, Vaishkenu mechavila atchur asher al pene mitzraim boacha ashura. Alpene kolechav nafal. La Torah nous fait part de l'endroit où s'est installé Ishmael. Parce qu'on nous parle des 12 Nessi'im, les 12 princes que Ishmael a mis au monde. Et donc tous ces princes ont résidé Mechavila Adshur, Asher Alpene Mitzraim, qui se trouve en face de l'Égypte. Boacha Ashura, Alpene Kolechav Nafal. Sans s'arrêter vraiment sur le Pshat, vraiment c'est un passouk assez riche. Mais on a du mal à traduire ces derniers mots. Alpene Kolechav Nafal, à la face de tous ses frères, il est littéralement tombé. Et Rashi, pour essayer de nous éviter donc de faire l'erreur, nous dit attention, Nafal, ça veut dire si Shachan. Il a résidé. Et il s'inspire, Bémet, il s'inspire du Ankelos. Donc, les derniers mots d'Ankelos sur la paracha, c'était Al-Ape Kolachoi Shera. Shera, l'Ishrot. L'Ishrot veut dire résider. La Shrina. Donc, comme il rejoint Rashi, Shachan. C'est-à-dire, il a résidé à la face de tous ses frères. Mais si il a résidé à la face de tous ses frères, pour la Torah, on n'a pas dit Al-Pene Kolachav Shachan, alors. Ça aussi, c'est de l'hébreu. Ça aussi, c'est du Lashon HaKodesh. Prend dit Alpene Kolechav Nafal, pourquoi la Torah l'exprime avec une possibilité de faire l'erreur qui ferait référence à la chute de Ishmael. Et le Baal HaTorim justement reprend ce langage, ce terme utilisé par la Torah, Nafal, pour le lier à ce qui se passe après. Ve'el et Toldot Yitzhak. Parce que même moi, en lisant la paracha, J'ai fait attention à cette lettre et cette fameuse règle que Rashi nous fait part dans la parashat Mishpatim. Le Ele passa à la Tarishonim, Ve Ele Mosif à la Rishonim. Quand on dit Ele, c'est point à la ligne, on parle d'un autre sujet. Et quand on dit Ve Ele, c'est qu'on veut le lier. Depuis quand on voudrait lier les Toldot Yitzhak ben Avraham à Ishmael? Comment on les lit? C'est pour prendre, on veut les lier. Et le Baal HaTorim, on l'a pas ici, bon, dans d'autres machines il y est. Le Baal HaTorim explique, justement pour nous apprendre, que la chute d'Ishmaël, elle dépend de l'apparition des descendants de Yitzhak. C'est-à-dire que quand apparaîtra les Toldot Yitzhak, on aura affaire à la chute d'Ishmaël. Je ne sais pas s'il a dit ça en tant que Dvar Torah ou en tant que prophétie. C'est quelque chose qui aujourd'hui est peut-être beaucoup plus actuel qu'à l'époque où le Baal HaTorim lui-même l'avait dit. Mais voilà, il fait référence au Toldot Yitzhak. À l'apparition des Toldot Yitzhak, on aura la chute d'Ishmaël. Le problème, c'est, bon, avant de parler des Toldot d'Yitzhak, je pense qu'il serait bon de savoir à qui est Yitzhak même. Effectivement, celui qui veut connaître un peu plus amplement le personnage d'Abraham aura le choix entre 3 voire 4 parachiotes même. En tout cas, il y a la totalité de l'Ech Lecha, de Vayera, de Chayesara. À travers toutes ces histoires, quand même, on peut connaître du moins la partie que la Torah veut que l'on connaisse du personnage d'Abraham. Parce que les 3 parachiotes parlent d'Abraham de façon omniprésente. Alors que même la fin de la parashat Noach, on peut dire, la fin de la parashat Noach déjà nous dresse le portrait d'Avraham. Celui qui veut connaître Yaakov, ben met déjà dans la parashat Toldot, on parle de Yaakov et Esav, leur naissance, l'épisode de la Bechora, l'épisode de la Bracha, Yaakov a dû se sauver, etc. Donc, déjà dans Toldot, on nous parle de Yaakov. Mais Bémet Yaakov, bon, Hachem, on a un nombre assez important de parashiot pour connaître ce personnage, puisque dans les parashiot qui vont suivre, on va avoir Vayetse Yaakov, Vayishlach Yaakov, Vayeshev Yaakov, et même toutes les parashiot au milieu qui vont parler de Yosef et ses frères, c'est toujours autour de Yaakov, et la fin du Sefer Bereshit avec Vayechi Yaakov. Donc, autant Abraham que Yaakov, Baruch Hashem, on a des adresses, on a des contextes sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de connaître un petit peu ce qu'ils représentent et leur personnalité. Autant Yitzhak, c'est très flou. Yitzhak, d'abord, il n'y a pas de parasha entier qui parle de lui. Mais même quand il apparaît, à chaque fois, il disparaît de façon très inattendue. Très bizarre. En vérité, il apparaît ici. Toldot Yitzhak ben Avraham, il apparaît au niveau de la naissance de ses enfants, heureusement. Et le seul chapitre qui lui est dédié, c'est le chapitre 26, comme par hasard. Perek Ravav. C'est le Perek dans lequel on va nous parler de la volonté de Yitzhak de reprendre les affaires de son père avec les Beerot, avec les fameux puits, etc. C'est le seul chapitre, on va dire, dans lequel on nous parle de Yitzhak pour Yitzhak. Mais en vérité, Yitzhak n'apparaît pas seulement ici. Il apparaît même dans les parachutes précédentes. Et toutes les parachutes que j'ai citées, à savoir Lech Lecha, Vayera, Chayesara, ont parlé aussi de Yitzhak. Mais de quelle façon? Dans la parachute Lech Lecha, la Torah, lorsqu'Akadosh Baruch Hu modifie le nom de Avraham en Avraham, de Sarai en Sarah, il leur dit, vous allez avoir un enfant, vous allez l'appeler Yitzhak. Donc on nous parle de Yitzhak dans la parashat Lech Lecha, mais sous forme de celui qui est promis, l'être promis, la promesse. Donc on ne dit pas ce que Yitzhak il a fait, de quoi il l'est fait, comment il a été promis. Dans la parashat Vayera, celle qui suit, on nous parle de Yitzhak en tant que celui qui est né. La naissance de Yitzhak, il est arrivé au monde, et on finit même de la façon dont il a failli partir de ce monde. Il est ce qu'on appelle, comme pour rejoindre le piyout, le fameux piyout de Rosh Hashanah, Oked ve'ane'ekad ve'amisbeach. On nous parle du ne'ekad, du ligoté, de celui qui a été ligoté. Dans la parashat Chayesara, où de façon majoritaire la Torah s'est attardée sur la façon dont on lui a trouvé une femme, on nous parle de lui comme celui à qui on doit trouver une femme. Voilà à qui on va le marier. Vous comprenez qu'à chaque le point commun dans toutes ces parashiot, dans toutes ces énoncés qui parlent d'Yitzhak, on ne parle d'Yitzhak que de façon passive, à chaque fois. D'accord ? Le promis, le né, le ligoté, le marié, c'est même pas lui qui va la chercher. On va lui chercher. Et on a hâte, quelque part, de voir un petit peu. Bon, et quand est-ce qu'il va faire des choses, lui ? Quand est-ce qu'il va rentrer dans le monde de l'action? Quand est-ce qu'il va prendre des initiatives? Et effectivement, dans la parasha Toldot, il prend des initiatives. Mais ces initiatives sont à chaque fois, on va dire, dénaturées, déformées. Elles sont détournées. Il va prendre l'initiative suite au conseil de... il va prendre l'initiative de bénir son fils. Et encore, alors l'initiative c'est quoi? C'est de bénir son fils, mais sur lequel? Esav. Et en fin de compte, il prend une initiative. En fin de compte, c'est Yaakov qui bénit. Et Yitzhak va devoir dire à la fin, Dov, celui qui est passé, alors Gam Baruch Yeh. Il va devoir confirmer Bedi Avad, la bracha qu'il a donnée de façon erronée. C'est-à-dire même l'initiative qu'il prend n'aboutit pas. Il ne fait que la confirmer après coup, une fois qu'elle est passée. Même à la fin de la paracha, à la fin de la paracha de Toldot, au dernier chapitre là-bas, Perek Rafret, alors, avant de lire le début du Perek Rafret, lisons le dernier pasouk du Perek Rafzaïn. Au pasouk Memvav, là-bas, c'est marqué « Vatomer Rivka el Yitzhak, katzti bechayay mipene benotret » Donc j'ai été éduqué dans l'écœurement donc des filles de Chet, des filles de Canaan. Im lokeach Yaakov isham ibenot Chet kaeles. Si jamais Chaz v'Shalom Yaakov prend une de ces femmes-là, ibenot Ares, des filles de la terre, la malichaim. Alors quel sens aura ma vie? Et là, comme par hasard, je vous disais que c'est important de lire le dernier pasouk pour entamer celui qui arrive. Vaïkra Yitzhak al Yaakov, vaïvarech oto, vaïtzaveu, vaïomer lo lo tikach hisham ibenot kenan. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que Rivka a dit ma vie n'aurait aucun sens si mon fils Yaakov prend une fille de Kenaan, c'est là que Yitzhak appelle son fils, cette fois de façon claire, pour lui donner la bracha et lui dire de ne pas prendre une de ces femmes-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on comprend de là? Au niveau du pshat, c'est même pas Yitzhak qui prend cette initiative, c'est encore une fois, c'est sa femme qui lui dit « fais ça ». Appelle-le pour lui donner l'ordre explicite, surtout de ne pas prendre une femme des Benotret et qu'il aille chez mon frère Lavan, etc., avec tout l'ordre qui va suivre après. Donc même cette initiative n'en est pas une, parce que c'est pas son initiative, il ne fait qu'écouter ce que Rivka lui dit. Alors, vous allez me dire, bon, ben d'accord, mais prenons maintenant le fameux chapitre qui traite de Yitzhak même, lorsqu'il reprend les affaires de son père, dans le Perek Rav Vav. On va survoler quelques psukim qui nous intéressent. Voilà. Vechola Be'erot. Voilà. Yitzhak arrive, donc il va à Guérar. Il va où Avimelech était pour essayer donc de reprendre les puits que son père avait creusés. Au Perek Rav Vav, Pasuk Yud Zayin. Vayelech Misham Yitzhak, Vayichan Benachal Gerar, Vayeshev Sham, Vayashov Yitzhak, Vayerpor et Berot Amaim, Asher Chafrou Bim Avraham. Il recreuse les puits qui avaient été creusés à l'époque d'Avraham, son père, Vayistatemum Pelishtim, et qu'entre temps les Pelishtim avaient rebouché. Acharemot Avraham. Donc, il va pour prendre les affaires à son père, bon, mais en attendant, ça avait été accaparé. Vayikralain Keshemot Keshemot Asher Karanaïn Aviv. Donc ils se mettent au travail, l'équipe, la main d'œuvre d'Yitzhak se met au travail, se met à creuser. En fin de compte, leurs efforts aboutissent à une réussite, ils trouvent, donc il y a de l'eau. Et là immédiatement, voilà, en fin de compte, il a pris une initiative, non, arrive le berger de Guérar, il dit non, dégage, non, c'est pas à toi ici. Comment il appelle Vaïkra Shamaber Esekita Sekouimo? Bon, il appelle ça à la dispute parce qu'ils se sont disputés avec lui. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Yitzhak s'en va. Vaïarperu Ber Acheret Vaïarivu Gamalea. Il s'en va, il va creuser ailleurs. Et quand il creuse ailleurs, d'autres bergers viennent et lui disent Non, mais c'est pas à toi, c'est à nous ici. Vaïkra Shema Sitna. Il appelle Sitna. Vaïatek Misham. Il redéménage une troisième fois. Vaïarpor Ber Acheret. Il va pour creuser un autre trou, vélo ravoualéa. Ah. Et cette fois, il n'y a personne qui dispute, il n'y a personne qui conteste. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire ici? Vous voyez que même quand Yitzhak prend une initiative, il réussit pas. Et la seule réussite qu'il a, c'est parce que, bon, ils ne se sont pas disputés. C'est-à-dire, s'ils s'étaient disputés, pourquoi la Torah te dit, ils ne se sont pas disputés avec lui sur le troisième puits? C'est-à-dire que s'il avait trouvé des opposants sur le troisième puits, il serait encore une fois parti. Non, alors qui c'est? Qui c'est Yitzhak? Qui c'est Yitzhak, Bémet? Ça nous interpelle tout ça. Regardez même dans la Hakeda. La Hakeda, quand même, il occupe un rôle assez important. Alors, on pourrait discuter, est-ce que c'est le premier rôle, est-ce que c'est le second rôle? Rappelez-vous lorsque Abraham laisse en bas de la montagne ses fameux deux Néharim, Eliezer et Ishmaël. Il lui dit, restez ici. Il dit, venale, venishtachave, venashuva alechem. Restez ici. Chez vous, imachamor, vani, venar, nelchadko, venishtachave, venashuva alechem. Nous allons nous prosterner là-bas et nous reviendrons vers vous. Il fait la Akeda, en fin de compte, il se passe ce qui se passe. Et c'est marqué à la fin, Vayeshov Avraham en Ne'arav. Vous voulez Yitzhak? Il n'est pas reparti avec lui. Avraham revient tout seul vers les Ne'arim qu'il a laissés en bas de la montagne. Yitzhak, il a disparu. Encore une fois, même quand il apparaît, il faut qu'il disparaisse de façon bizarre. Alors tout ça nous amène bien sûr, bien entendu, à essayer de comprendre Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'il représente? Quelles sont ses valeurs? Regardez même au début du Perikra Vav. Qu'est-ce qui se passe au début du Perikra Vav? Vayir Ra'av Ba'aretz, Milevad Ra'av Arishon, Asher Yabim Avraham Aviv. Vayeler Yitzhak, Alavim Melech Melech Pelishim Gerara. Donc il y a une famine. À part, il n'y avait plus eu de famine depuis l'époque d'Avraham. Rappelez-vous, dans la paracha de Lech Lecha, quand Avraham arrive en Eretz Kenan, il y a la famine. Et donc, le réflexe d'un être humain normalement constitué, c'est la crise ici, on va en Égypte. En Égypte, il n'y a pas besoin de pluie, puisqu'il y a le Nil qui traverse tout le pays. Donc là-bas, c'est sûr qu'on peut faire des affaires. Donc, qu'est-ce qu'il Yitzhak s'apprête à faire comme son père. Il y a la famine, on va descendre là-bas. On va aller en Égypte. Mais avant, il veut savoir justement, est-ce qu'il a un moyen de s'en sortir ici? Alors qu'est-ce qu'il fait? La Torah ne le dit pas explicitement, mais c'est clair que c'est ça la kavana de la Torah. Il va voir Vayelech Yitzhak et Avimelech Melech Peshtim Gerara. Il va voir Avimelech. Pourquoi il va le voir? Pour voir est-ce que l'accord que Avimelech avait contracté avec Avraham, à la fin de la paracha de Vayera, est-ce qu'il est toujours Kayam? Est-ce que cet accord est toujours bon? Et donc ça veut dire que Yitzhak a imaginé un instant qu'il va devoir agir comme son père l'a fait. C'est la crise ici, on va en Égypte. Immédiatement, Hachem lui dit, surtout cette idée-là qui vient à peine de germer dans ton esprit, je ne veux surtout pas que tu la ramènes à ton cœur. Vayera elav Hachem. Vayomer alteret Mitzrayima. Encore une fois. À un moment donné, il a pensé agir ou réagir comme son père. Hachem vient lui dire, alteret Mitzrayima. Non, toi non, c'est pas la même chose. Toi, tu restes ici. Shechon Baaretz, Gour Baaretz Azot, comme on va voir plus tard. Ça n'aboutit pas. Or, c'est quoi le pshat? Il y a une différence marquante que la Torah exprime à propos d'Yitzhak par rapport aux autres personnages de la Torah et plus précisément par rapport aux Avot en général. Quand on parle de la richesse d'Abraham, on parle toujours de son menu et gros bétail, de tous les animaux qu'il avait. Chez Yaakov, c'est complètement explicite. Quand il envoie là-bas un échantillon de ses cadeaux à Esav, on imagine combien il avait, etc. Mais qu'ils ont, c'est des kilomètres et des kilomètres de bétail. C'était ça leur fortune. En deux mots, ils étaient ce que la Torah appelle « ro'etson ». Ce qu'on remarque chez Yitzhak, on le voit pas avec des animaux. On le voit, au contraire, toujours lié à la terre. On le voit ici, déjà dans l'histoire des Be'erot. Dans les Be'erot, donc il travaille avec la terre, lui. Il va chercher de l'eau, il va creuser la terre. Il va chercher la source de vie qui se cache dans la terre. On le voit aussi à la fin de la paracha de Chayisara, lorsque Eliezer, en fin de compte, revient avec la fameuse jeune fille, avec Rivka. La Torah dit là-bas, « Vayet Yitzhak la souar basadé. » Yitzhak, il est dans le sadé. Rappelez-vous, lorsque Yaakov apparaît déguisé devant son père pour recevoir les brachot, alors la remarque que Yitzhak lance avant de prodiguer les brachot, il dit « Reach beni, ki reach sadé, asher berichu Hashem. » Ça sent le sadé. C'est-à-dire, on voit de façon omniprésente chez Yitzhak, n'est pas un homme de bétail, c'est un homme de sadé, c'est un homme des champs. Et ces fonctions, ces deux fonctions, on peut dire qu'elles traversent l'histoire de Bereshit du début à la fin. Vous vous rappelez, lorsque la Torah, dans la paracha de Bereshit, elle nous avait présenté, après la naissance des deux enfants de Abraham et de Adam et de Chava, la Torah immédiatement avait tenu à nous faire part de la fonction de chacun. Là-bas, c'est dans le Perek Dalet, Pasoubet, je crois. Ouais, c'est ça. Vatosef la ledet et havel, vayi hevel, Perek Dalet, Pasoubet, vayi hevel, ro'etson, ve kain ayaoved adama. On dirait que voilà, le premier homme a mis en place un début d'humanité à travers ses deux enfants, Kain et Havel. La Torah nous dit tout de suite, Attention, dans l'humanité, il y aura deux classes. Il y aura deux types d'hommes. Il y aura ceux qui sont Ro et Tson, et ceux qui seront Oved Adama. Alors, on connaît la suite de l'histoire, puisque Hevel va amener des Bechorod, mais Bechorod Tsono, il amène des animaux en tant que corban devant Hachem, Vaisha Hachem El Minchato, Hachem se tourne, ressent un intérêt dans le corban de Hevel. Par contre, celui de Caïn, Ve'el Minchat Caïn, Losha'a, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas tourné vers l'offrande de Caïn qui lui était Oved Adama. Alors bien entendu, quand on nous parle, le premier sentiment, la première réaction que l'on a quand on se rappelle de ces deux branches, notre cœur a tendance à se tourner, à être beaucoup plus sensible vers les bergers, puisque notre histoire est constituée de bergers. D'accord ? Que ce soit à travers Hevel, Avraham va être berger, Yaakov va être berger, Eliezer rencontre Rivka. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train d'amener le troupeau pour les faire boire. Donc elle était aussi berger. Yaakov, donc Yaakov, c'est bizarre aussi, vous voyez, la relation qu'il y a entre Rivka et Yaakov. Et Rivka ohevet et Yaakov. Rivka était bergère et Yaakov est berger. Et où est-ce que Yaakov a rencontré la femme de sa vie, Rachel, aussi, alors qu'elle venait avec le troupeau de son père. D'ailleurs, Rachel, Rechelim, c'est la chèvre ou le mouton, en tout cas, ça fait référence à un nom des animaux qui constituent des troupeaux. Et l'enfant qu'ils vont avoir, l'enfant par excellence avec un grand E, le fameux fils Yosef, Lech nare'e et shelom achicha ve shelom atzon. Pourquoi il n'était pas avec ses frères? Parce que lui, il s'occupait des troupeaux. Et quand son père l'envoie, il lui dit, va voir comment va le troupeau et comment vont tes frères. Et il va être amené à régner sur l'Égypte, un pays dont les bergers sont l'abomination la plus absolue. Ce qui va faire que lorsque sa famille, à un moment donné, va devoir le rejoindre en Égypte, il va chercher une terre relativement retirée, à l'écart de la population, pour qu'il ne soit pas embêté. La terre de Goshen, qui est une terre spécifique pour les bergers, parce que sa famille sont des bergers. Donc, notre cœur, à part Moshe Rabbeinu, bien sûr, David HaMelech. Donc on aurait tendance à qualifier que, on va dire, l'idéal, c'est d'être berger. Puisque, on va dire, nos personnalités principales, prédominantes dans la Torah, sont des bergers. Alors qu'en vérité, depuis le début, la Torah ne fait que dire le contraire. Rappelez-vous, lors de la création du troisième jour, tout au début, dans le Passouk, Yud Aleph, où Akadosh Baruch Hu met en place la végétation, donc la terre. Vayomer Elokim tatche haaretz deshe esev mazriya zera. Akadosh Baruch Hu met en place la végétation et la Torah utilise un terme unique d'ailleurs, tatche haaretz. Rashi a du mal à expliquer tatche, c'est l'herbe. C'est-à-dire qu'il a mis la végétation sous forme d'herbe. À chaque, que ce soit la création des animaux, de l'être humain, je crois que c'est totse haaretz, que la terre fasse sortir tadche haaretz. Au niveau de la végétation, non. Et pourquoi? La Torah le dit après, parce que ve adam ayin la avod et adama. Il fallait surtout pas que la végétation apparaisse tant qu'il n'y avait pas d'homme, parce qu'il fallait que l'homme constate de ses propres yeux l'évolution de la végétation, l'apparition de la végétation, l'apparition du produit de la terre. C'est pour ça qu'au niveau de la végétation, c'est pas marqué que la végétation sorte, qu'elle soit apparente. Non, tatché haaretz. Ça reste au niveau des graines, et quand l'homme arrivera, alors là, elle sortira. Akadosh Baruch Hu attendait que l'homme soit mis en place. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va créer l'homme dans le Gan Eden. Va'ita Gan be'eden mikedem. Et il demande à l'homme de l'Ovda ou le Shamra, il demande à l'homme de travailler le Gan Eden. Quel mot on a utilisé, même si c'est une image, Akadosh Baruch Hu a planté. Donc il attend de l'homme qu'il conserve ses plantations, qu'il s'affaire à la terre. On voit que l'idéal, à la base, dans le monde absolu, dans le monde idéal de la Torah, ce qu'on attendait de l'homme, c'était la relation avec la terre. Sauf que, à partir du moment où Adam Harishon se met à fauter avec le produit de la terre, avec le fameux Etz Hadaat, c'est là que la terre en prend plein son grade. Arura ha'adama ba'avurecha. Et lorsque Caïn décide d'opter pour la branche Oved Adama, en fait, ce qu'il voulait, lui, à la base, il voulait réparer les torts, les failles qui ont été créées sur la terre, qui ont été placées sur la terre. On le voit d'ailleurs à la fin de la parasha de Bereshit, lorsque Lémech met au monde Noach, qu'est-ce qu'il dit ? Comment c'est marqué ? Parce que là-bas, le pasouk est important à la fin de la parasha de Bereshit. Voilà. Ze yenachamenu mimasenu mitzvon yadenu min ha'adama asher erer Hashem. À lui, il va nous décoller, il va nous enlever, il va nous débarrasser de la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu a maudit la terre. Et Rashi explique là-bas que Noach avait mis en place l'invention du labourage de la terre. D'accord ? Et on voit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on refait une rétrospection un peu, on revoit ce qui s'est passé avec les gens qui se sont affairés à la terre. Parce qu'a priori, Abraham a réussi, Yaakov a réussi, tout ça sont en référence. Caïn s'est affairé à la terre, et il a fini par tomber. D'accord ? Ça a mal fini pour lui. Noach arrive, c'est lui, il va sauver. Il est présenté au début comme le héros de la terre, celui qui va rétablir le statut de la terre, juste en sortant de la Teva, Vayachel Noach. Littéralement, Noach s'est profané. Vaïta Kerem. Il a planté une vigne, et comment ça a fini ? Ça a mal fini, comme on sait. Kenan, Cham, Laklala, etc. Celui qui vient après pour essayer de réparer cette relation à la terre, c'est Yitzhak. Yitzhak se trouve à chaque fois qu'on le voit, il est derrière un champ, il est dans un champ, derrière un champ. C'est omniprésent chez lui. Quand je vous dis, excusez-moi, on se balade un petit peu partout, mais dans la parasha, à la fin de la parasha de Haïsara, on a dit « Vayetse Yitzhak la soir bassadé ». Il est bassadé. Et c'est pas seulement ça. Alors, même lorsque Rivka, voilà. « Vatissa Rivka, pasouk samer dalet, vatissa Rivka et enea, vatere et Yitzhak, vatipol me alagamal, vatomer alaeved, mi haish alaze haolech bassadé ». Qu'est-ce qu'on a à faire où il est maintenant, où il marche, où il avance ? Il est bassadé. Même elle voit qu'il est bassadé. C'est un homme de sadé. Top. Alors maintenant, une fois qu'on a remarqué ça, d'accord, il y a les bergers. Donc les bergers, c'est ceux qui font avancer un troupeau. Les bergers marchent. Rachel était bergère. D'ailleurs, c'est intéressant. Rachel est enterrée, Baderech. Le berger est toujours Baderech. Et lorsque les Bnei Israël vont être Holchim, lorsqu'ils vont partir de Jérusalem, c'est vers le tombeau de Rachel qu'ils vont se tourner, en disant, grâce à toi, on reviendra un jour. C'est elle, la bergère du troupeau qu'on représente. Alors, une fois qu'on a placé plus ou moins ces informations, il faut essayer de comprendre. Bon, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi être Oved Adama ? Et ça veut dire quoi être Ro Etson ? Essayez de comprendre cette notion de Oved Adama. Pour essayer de la comprendre, prenons une image qu'on pourrait demander à des enfants de faire. Essayons de nous mettre dans la peau de Adam Harishon. On est Adam Harishon, on est tous dans Adam Harishon. Mais Adam Harishon, le sixième jour, une fois qu'il a été créé, il porte un regard sur toute la terre. Il regarde autour de lui. Si on essaye de s'imaginer, quelle différence y a-t-il entre ce que Adam Harishon contemple, ce qu'il voit autour de lui, et ce que nous, on voit autour de nous aujourd'hui ? D'accord ? Je ne parle pas maintenant des bâtiments, des grues, tout ça, c'est l'évolution, mais dans le monde tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis en place. Mais quelle différence y a-t-il ? Il y a des montagnes, il y a la mer, il y a les créatures, il y a les animaux, il y a la végétation. C'est quoi la différence qu'il y a entre la vision de Adam Harishon au moment où il a été mis en place, au moment où il a été créé, et nous aujourd'hui ? La différence la plus frappante, a priori, c'est lorsqu'Adam Harishon regarde autour de lui, il y a en fait, lui ne va pas le vivre de cette façon, mais c'est comme ça que nous, on aurait tendance à le traduire. Il voit un monde qui est un peu un immense orphelinat. C'est-à-dire, en fait, chaque créature qu'il voit autour est le prototype même mis en place par Hachem. D'accord, la vache, elle n'a pas de parents. Il n'y a pas un papa et une maman derrière. C'est la différence fondamentale entre le monde d'Adam Rishon et le nôtre, c'est que nous, quand on regarde la matière, bon, on se dit, oui, d'accord, il y a des choses qui me dépassent, donc il y a toute une histoire derrière. Et cette histoire, elle a encore une histoire et encore une autre histoire, et ça m'éloigne de l'origine, quelque part. Alors que Adam Arishan, quand il voit ça, quand il voit même un animal, pour rejoindre un peu le terme en hébreu le plus fort, il vit le Yesh Me'ayin. Vous savez, c'est un peu, voilà, si on essaierait de ramener ça à nous, c'est un peu ce sentiment inoubliable par lequel un homme qui a eu la chance d'avoir un enfant est passé. D'accord, ce premier enfant, cette première échographie vécue avec sa femme, ou le premier accouchement. Ce sentiment-là d'être submergé par une force qui s'appelle Yesh Me'ayin. Il n'y a pas un limoud, il n'y a pas un passou, c'est pas des mots. C'est un sentiment de Yesh Me'ayin. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Maintenant, bon, effectivement, nous avons vécu ce sentiment de façon très brève. Il est vite passé après les préparatifs, la vie, le travail reprend le dessus, etc. Mais c'est comme si Adam Arishon lui vivait partout où il posait son regard ce sentiment de Yesh Me'ayin. Ce sentiment qu'on pourrait avoir, nous, de façon brève à la naissance d'un enfant, lui, il l'avait partout et constamment. Donc, ça nous amène à quoi ? Parce qu'en vérité, si on devait maintenant parmi tous les domaines qui existent sur Terre, définir le domaine qui procurerait éventuellement à l'être humain ce sentiment de émouna envahissante, ce sentiment de stupéfaction d'Hachem, de créer à partir de rien, de Yesh Me'ayin. Quel est le domaine aujourd'hui qui nous amènerait naturellement à ce sentiment? Le domaine le plus approprié, ce serait l'agriculteur. C'est celui qui travaille avec la terre. Et à travers ça, regardez, il y a une Gemara dans Shabbat d'Aflamed Aleph. Bien sûr, je vais la retrouver. Qui ramène un pasouk dans Yeshaya. Voilà. Dans Yeshaya, Lamed Gimel. Amar Resh Lakish. Resh Lakish ramène un pasouk qu'il a du mal à comprendre. Nous, on a du mal tous à comprendre. Pasouk dit comme ça. Vaya emunat itecha chosen yeshuot chokma vada'at. Et ce sera emunat itecha, la foi de ton moment. Chosen, c'est un abri. Yeshuot, de délivrance. Chokmot vada'at, de sagesse et d'intelligence. On va dire ça. Allez, à peu près comme ça. Alors, il dit Resh Lakish, qu'est-ce que ce passou vient t'apprendre? De quoi parle ce passou? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit Emunat. C'est quoi Vaya Emunat? Alors, il dit ce mot, déjà, d'après Resh Lakish, lui, il voit tout de suite comme ça. Il y a six mots dans ce passou. Emunat, Itecha, Chosen, Yeshuot, Chochma, Vada'at. Il y a six mots. Il te dit Emuna, Zeseder Zraim. Quand on parle de Emuna, ça fait référence à tout le programme. Le premier seder des Shishas Darim, qui s'appelle Zraim, qui traite de l'agriculture. Itecha, tes moments, et Moed, tout le seder Moed, Shabbat, Rosh Hashanah, Yoma, Megi, etc. Toutes les macertot qui font référence au fait, au rendez-vous que l'on a avec Hachem. Ze seder Moed. Chosen, l'abri. Ze seder Nashim. C'est à travers une femme qu'un homme va se faire un foyer. Quelqu'un qui l'entretient, qui s'occupe de lui, qui va le choyer, Chosen, Seder Nashim, Yevamot, Gitin, Kidushin, Ktuvot, etc. Seder Nashim. Yeshuot, les délivrances. Une délivrance, c'est après un problème. Seder Nezikin, quand on vit un ézec dans la vie, donc la façon de gérer un petit peu les problèmes de société, nézikin. Chokhmat ze seder kodashim, ve da'at ze seder ta'orot. Stam, au passage, Rava, il reprend le même pasouk pour dire que ce pasouk fait référence aux six dossiers qu'on va sortir à l'homme après 120 ans. Emunat itecha chosen yeshuot chokhmat vada'at. Il dit, c'est quoi les six questions? Premièrement, on va demander à l'homme déjà, Aïm nasata venatata bimuna, est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Deuxièmement, itecha kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments pour étudier? Troisièmement, chosen asakta bepira verivia, est-ce que tu t'es pris la tête à faire grandir tes enfants? Ensuite, yeshuot, c'est tipita le yeshua, est-ce que tu as attendu ardemment la geoula, la délivrance? Ensuite, Chochma, c'est Pilpalta et Chochma. Est-ce que tu as retourné les paroles de sagesse en les analysant? Et Da'at, c'est Aïmi Vintat Davar Mitor Davar. Est-ce que tu as déduit de toi-même certains enseignements à partir d'un sujet sur un autre? Est-ce que tu as abouti à une production? Pour revenir au. Alors, Bémet, ça m'a répondu à une question que je me suis toujours posée. C'est comment ça se fait que Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il met en place la Torah chez Béal Pé, alors il le fait donc de façon très réfléchie, très ordonnée. Donc il y a ces six sujets qu'on connaît, donc Zraïm, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim et Taorot. Comment se fait-il que le premier des Starim qu'il met en place, c'est Zraïm? Tout ce qui parle, Bikurim, Maaser, Trouma, Maaser Sheni, Khala, pourquoi Zraïm en premier? C'est la Emouna. C'est toute la notion de Oved Adama, c'est ça. C'est le domaine dans lequel tu te donnes les moyens d'être pénétré par ce Yesh Me'ayin. Il n'y a rien. Il n'y avait rien et pourtant, voilà maintenant, un monde qui a poussé. C'est pour ça que c'est la Emouna d'abord. C'est la Emouna d'abord. Et à la fin, il y a la Yira. La Emouna, elle vient avant la pratique, avant Shabbat, avant Nashim, avant les enfants, avant tous ces concepts fondamentaux. Alors, on avance. Donc, on comprend plus ou moins la différence qu'il y a entre.
Elle avance de
5
minutes 45.
Il est 45 là déjà. Hein, oh, c'est bon. En fait, voilà, c'est ça. Ce que j'essaie de dire ici, il y a la Gemara aussi, le Shabbat d'Avpetet. Elle ramène un pasouk. Vous savez, les psukim dans lesquels apparaissent à chaque fois Avram et Yaakov sont très nombreux dans le Nach. Titen emed Yaakov, chesel Avraham, ce qu'on dit à Tachkouk. Il y a un autre pasouk dans Yeshaya à la fin, dans le Père et sa mère Gimel, qui est Ata Avinu, qui Avraham lo yeda'anu ve Israël lo yakirenu, Avinu Ata Hashem goalenu me'olam shemecha, quelque chose comme ça. Et Yitzhak n'apparaît pas. On voit que les Nevi'im, très souvent, nous ont provoqué en mettant en devant Avraham et Yaakov. Et Yitzhak n'apparaît pas, encore une fois. Et là-bas, la Gemara dans Shabbat, c'est une Gemara extraordinaire. Elle essaye d'interpréter le pasouk, elle dit comme ça. Ce pasouk-là, qui a Ta'avinu, qui a Avraham, le Yedan, ou Israël, le Yakiran, il fait référence à cette image. En fait, au moment où les Bnei Israël ont fauté, Akadosh Baruch Hu vient voir Avraham, il lui dit Banecha Chat'u. Tes enfants ont fauté. Quelle est la réaction d'Abraham, le bienveillant? Imachou al-Kedushat Shemecha. Fais le ménage. Fais payer les bons pour les mauvais. Peu importe, en tout cas. C'est une solution un peu navrante. Il va voir Yaakov. Il s'est dit, bon, lui, il a eu une famille nombreuse. Il sait ce que ça veut dire, les enfants. Abraham s'était trop découpé. Bon, peut-être que Yaakov va mieux réagir. Viens à Yaakov, il lui dit, Imachou al-Kedushat Shemecha. La même chose. Il dit, bon, pas possible. Décidément, comme ça la Gemara elle dit, les vieux ne savent plus ce qu'ils disent et les pères de famille ne savent plus défendre leurs enfants. Bon, je vais aller voir Yitzhak. Il va voir Yitzhak. Banecha chat'u. Et là, Yitzhak a une réponse extraordinaire. Il dit Banecha atchata kore lahem banai lo banecha hem. il a dit, quand tu as donné la Torah à mon Sinaï, ils ont dit Nasev Nishma, qu'est-ce que immédiatement la Torah dit, Béni Bechori Israël. Alors quoi, quand ils fautent, c'est plus tes enfants. Donc déjà, c'est tes enfants. Et c'est pas fini. Il lui a dit, mais deuxièmement, mais Kamachat ou. Et combien ils ont fauté? Et là, il rentre dans une négociation de juifs extraordinaire. Il lui dit, sauf, l'être humain, il vit combien de temps? 70 ans. Bon, déjà, enlève 20 ans, parce que 20 ans, les premières 20 années de sa vie, il n'est pas condamnable. Il reste 50 ans. Sur 50 ans, ils ont bien dormi. Alors, tu enlèves la moitié. Alors, il reste 25. Sur les 25 ans, ils ont dit allô au travail, ils ont dû se soulager, ils ont dû manger, etc. Il reste 12 ans et demi. Et si tu viens me parler, tu viens m'apporter un drame, là, bah, nechachat ou, sur 12 ans et demi, il dit Hachem, tu sais quoi, on fait moitié-moitié. Toi, tu prends 6, moi, je prends 6. Et tu sais quoi, et si tu veux pas prendre 6, je prends tout sur moi. C'est la dimension de Yitzhak, c'est ça. Yesh me'ayin, il s'est identifié à la terre. Il est la terre, il est le Yesh me'ayin. Quand Akadosh Baruch Hu dit Shechom ba'aretz, regardez Rashi là-bas, il dit Shata ola temima, ve'en chutza la'aretz kedai lecha. On comprend tous chutza la'aretz de façon sioniste, le dehors d'Israël. Non, chutza la'aretz. Yitzhak, il a intégré la terre, il est le rien, il est celui qui s'efface. En fin de compte, Yitzhak est le plus présent à travers son effacement. La présence d'Yitzhak, c'est son absence. C'est sa capacité à se sacrifier. C'est ça, c'est le ne'ekad. Et en fait, en vérité, celui qui il voit bien les parachutes, dans chaque parachat, il verra qu'on parle, même dans Rashi, de façon détournée d'Yitzhak jusqu'à la fin. C'est marqué Vayev Koto Aviv. On croit que c'est Yaakov a pleuré Yosef. Pas du tout. C'est Yitzhak a pleuré Yaakov. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Yitzhak est celui qui voit les choses enfouies, qui voit le potentiel, qui voit la terre. On comprend pourquoi Yitzhak, qui est Ish Sadeh, il est plus attiré par qui? Par Esav. Esav, il est l'homme des champs. Alors que Yaakov, qui est le berger, lui, il est lié à sa mère. Donc c'est toute cette notion de Yesh Me'ayin qui est complètement intégrée à Yitzhak, parce que lui, il est intégré dans le Eretz. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant ce que le Balatourim m'a dit au début. C'est par le mérite des Toldot Yitzhak que Nafal, Alpenek Olechav Nafal, que Ishmael tombera.